plombée par une note sectorielle de HSBC, soulignant leur valorisation record. Kering a cédé ainsi 3%, LVMH 1,8%, Hermès et L'Oréal 1,5%. À contre-courant de cette tendance, Pernod Ricard s'est offert un nouveau record et a gagné 2% après le relèvement de son objectif de résultats annuels. C'était Cécile Lecause d'Investir pour RFI.
Merci Cécile Lecause et merci à vous de votre fidélité à la Radio du Monde. Restez à notre écoute, je vous rappelle que toutes nos informations sont à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux.
Il s'appelle Noémie, Thibault, Arthur, Rémi.
Radio G. www.radio-g.fr.
Du 16 juin au 3 juillet, découvrez Circuit Court.
Des ateliers, rencontres et débats autour du livre.
Et de la bande dessinée.
Dans une trentaine de librairies indépendantes et bibliothèques de la région.
Gratuit et tout public.
Allez à la rencontre des auteurs et autrices.
Et maisons d'édition avec Circuit Court. La quinzaine du livre en Pays de la Loire à retrouver sur
mobilis-paysdelaloire.fr.
Un événement soutenu par la région des Pays de la Loire dans le cadre du plan de relance aux filières culturelles.
L'écoute de l'oreille curieuse. C'est la quotidienne consacrée aux actualités culturelles et locales. Il y a bien d'autres petites et grandes choses qu'on a envie de partager avec vous. Demain, c'est la dernière émission de la saison de toute la vie, car je l'emmène dans ma poche aussi. Il y aura toujours une quotidienne la saison prochaine, mais il est très probable que vous n'entendiez plus l'oreille curieuse. Ce sera de très belles choses, toujours à 18h10, mais ce ne sera plus la même voix, plus le même nom, plus tout à fait les mêmes histoires. Le changement est une chose merveilleuse. Aujourd'hui, c'est mercredi, et le mercredi, dans cette émission, on retrouve une semaine sur deux Céleste. Salut Céleste.
Salut Annie.
Tu viens avec le Guichet Choral, la chronique yes. consacrée au cinéma.
Comme tous les mercredis depuis plus de 7 mois.
Oui. De quoi vas-tu nous parler ce soir?
De fin, vu que c'est la dernière chronique.
The End, pas comme Exactement. J'ai faim. Très bien. Il y aura aussi dans cette émission Tonton Albert, alias notre chroniqueur et sa bonne mauvaise humeur. La bouteille aux trois quarts vide, c'est le titre de la chronique. Et ce soir, elle est en mode des poches sous les yeux. Ce sont des conseils de lecture pour votre été qui vous attendent. Le proverbe de ce soir n'est pas un clic et si vite arrivé, même si ça pourrait. Le proverbe que j'ai choisi, quand la poire est mûre, il faut qu'elle tombe. Ça veut dire quand le temps est venu, les choses s'accomplissent, si vous vous demandiez. Voici donc pour le programme de cette émission. On retrouve dans un instant, comme on dit, Tonton Albert. Bonjour Albert.
Bonjour Annie. Bonjour à toutes et à tous.
Alors c'est la dernière chronique de la saison de la bouteille aux trois quarts vide.
Ben oui.
Ben oui.
Ben oui, tout a une fin.
Tout a une fin et une continuité sans doute.
Eh bien, je l'espère de tout cœur. Hein. Mm-hmm. Je l'espère de tout cœur que je puisse continuer à vider cette chopine.
À vider ton sac.
L'année prochaine.
Et pour cette dernière chronique de la saison, tu es venu avec des poches sous les yeux.
Oui, ça m'arrive parfois. Et bon, pour mon ultime chronique dans l'Or et Curieuse cette année, j'ai pensé vous faire quelques suggestions de lecture. Les vacances approchent à grands pas pour vous, juilletistes fidèles ou haussiens inconditionnels. Et cette phase de temps suspendu peut être propice à la lecture. J'ajoute que je crois avoir pensé à tout. En effet, l'été voit généralement le mercure grimper allègrement et le réchauffement climatique n'arrange rien. Par voie de conséquence, sur la plage, pour peu qu'une bonne canicule de derrière les fagots soit de la partie, vous risquez bien d'atteindre la surchauffe. C'est pourquoi je me suis dit que des romans du Grand Nord vous rafraîchiraient les neurones. C'est donc avec une sélection de bouquins écrits par des auteurs scandinaves que je suis venu aujourd'hui à ce micro. Et l'on dira après que tonton Albert ne prend pas soin des gens qui l'écoutent. Commençons par un roman rendu léger, par le ton employé et les situations cocasses qui y sont décrites, et néanmoins ne manquant pas de profondeur quant au thème qu'il aborde. Le titre en est « Maurice et Mahmoud ». Son auteur est le Danois Flemming Jensen. Les subtils qui abondent parmi vous auront immanquablement deviné qu'il va être question de choc des cultures. Et vous ne serez pas déçus. Tant le quotidien de Maurice, façonné par un Occident luthérien, va se confronter aux habitudes de Mahmoud, importé du Liban. Un Liban qui s'invite à Copenhague via la voix de la mère de Mahmoud, qui tonne au téléphone, mais c'est comme si elle était dans l'appartement danois, tu vois, et qui n'a qu'un but, marier son grand fiston. Le mariage, ça tombe bien. Mahmoud vient de voir où ça mène, puisqu'il a recueilli chez lui son collègue Maurice, fichu à la porte de chez lui par son épouse. Les présupposés et autres préjugés seront bien sûr de la fête. Une fête totalement foutraque, à laquelle s'invitera ce bon vieux Murphy pour y faire sa loi. Je ne vous apprends rien, quand ça commence à partir en saucisse, il n'est pas rare que ça finisse en eau de boudin. Ce n'est pas le joyeux porcelet qui pose sur la photo de couverture du bouquin avec un masque au concombre qui me contredira. Bref, voilà une première suggestion qui n'engendre pas la mélancolie et qui, l'air de rien, est un appel vers cet autre que soi, si différent certes, mais peut-être pas tant que ça. Si vous avez aimé cet opus de Flemming Jensen, n'hésitez pas à acquérir un autre de ses romans, Le blues du braqueur de banque, tout aussi délirant mais empreint d'une vraie gravité, à l'image de ces histoires d'amour qui finissent mal en général. Si Météo France vous annonce soudain que le relevé des températures à l'ombre va être rendu impossible pour cause d'absence totale d'ombre, il va être temps de vous plonger dans ma seconde suggestion du jour. On monte encore d'un cran vers le nord, cap sur l'Islande, avec ce roman de John Kalman Stefansson intitulé « La tristesse des anges ». Attention, l'overdose de poésie vous guette au détour de ces pages. Un exemple avec cet extrait. Il a suffi d'un poème, et le gamin avait déjà disparu dans les mots. Il ne se souciait plus de la tempête. Il récitait les poèmes à haute voix pour son propre plaisir, les débitait tel un sorcier qui entrevoyait d'autres mondes. La poésie vous tue. Elle vous donne des ailes. Vous les agitez un peu et sentez l'enchantement vous envahir. Elle vous ouvre des mondes nouveaux, puis vous ramène brutalement à la tempête et aux souillures du quotidien. Ce gamin qui n'a pas de nom, vous allez l'accompagner dans la tourmente, dans un froid glacial propulsé du pôle Nord comme s'il était soufflé par un dieu haineux. Ce gamin escorte Jens, le postier, dans sa tournée périlleuse à travers les fjords du nord de l'île, une contrée hostile où souvent il n'y a pas âme qui vive, mais où les fantômes peuvent parfois surgir au détour d'une congère. Les deux hommes, le postier bourru et taiseux et l'adolescent au cœur d'artichaut, apprendront à se connaître dans ces conditions extrêmes dictées par une nature qui ne fait pas de cadeaux. Leur survie au pays des sagas est à ce prix. Cette tristesse des anges n'est autre qu'une métaphore désignant les flocons de neige, l'arme céleste emplie de beauté et pourtant si chargée d'une redoutable menace. Ce roman s'inscrit dans une trilogie. Il fait suite au premier volet, Entre ciel et terre, et précède le dernier, Le cœur de l'homme. Autant dire que nous avons là, avec ces trois romans de John Kalman Stephenson, de bien belles pulsions d'humanité. Ça y est, vous avez dû enfiler votre polaire. Je vous avais prévenu. Le blizzard islandais possède une capacité de persuasion étonnante. Comme je ne cherche pas non plus à vous faire attraper un mauvais rhume, je vous propose, en guise de conclusion, de gagner une île perdue dans l'océan Indien. C'est le décor qu'a choisi le troisième écrivain invité dans cette chronique, Arto Pasilina, le Finlandais amateur de situations improbables, mais ô combien désopilantes. Allez, il est temps de retirer votre parka et de remettre votre maillot de bain pour ressentir pleinement l'ambiance de prisonnier du paradis.
Joli titre.
N'est-ce pas ? Mais je ne me hasarderai pas à le dire en VO, ne maîtrise pas trop le finlandais. Le finnois, pardon. Cela démarre avec le crash d'un avion. Quelques morts, bien sûr, pour faire véridique, mais surtout une cinquantaine de survivants et de survivantes, respectant ainsi la parité. Par chance, ils et elles sont dans la force de l'âge. Des bûcherons d'un côté et des sages-femmes de l'autre. Rapidement, la vie va s'organiser dans cette assemblée de naufragés qui pourrait bien prendre les aspects d'une société idéale. Du travail, juste ce qu'il faut, et beaucoup, vraiment beaucoup de temps libre à passer auprès des cocotiers, à se la jouer au retour au paradis terrestre. Et il ne faut finalement pas très longtemps pour que le confort scandinave et la fiscalité qui va avec soient oubliés au profit de cette chance inespérée qu'il y a à se trouver là, oublié du monde. Jusqu'à ce qu'une scission se produise entre les partisans du retour au bercail et les tenants de la formule « Non mais ça serait vraiment trop idiot de partir d'ici !» L'arrivée d'un bateau porteur d'espoir pour les uns et sifflant la fin de la récréation pour les autres, sera l'opportunité pour Arto Pasilina de nous offrir un grand moment de paradoxe haut en couleur. Ah, qu'il est dur de renoncer à la liberté quand on sait qu'elle ne vous attend pas à la maison. Sur ces considérations, je vous souhaite à toutes et tous de belles lectures et de bonnes vacances.
Merci Albert.
De rien, Henley.
Ces trois conseils ont l'air très bien pour attendre, pour profiter de l'été avant de te retrouver à l'antenne.
Bah, peut-être.
Ou sur le site, le Saltimbook.
Aussi, oui, parce que je mettrai deux, trois choses en complément de ça, ouais. Peut-être bien. Des liens, des choses comme ça.
Et les liens, on les retrouvera sur le site de Radio G à la page de l'Oreille Curieuse.
Ouais, tout est formidable.
Oui, tout est formidable. Un grand merci Albert.
Au revoir, Anne-Lie.
Vous écoutez l'oreille curieuse sur Radio G, le 101.5 FM. C'était un titre de René Reed, I saw a ghost. J'ai vu un fantôme. Je ne vois pas un fantôme face à moi, je vois Céleste pour la dernière chronique du guichet choral, toujours consacrée au cinéma.
Bonsoir à tous, on se retrouve à nouveau pour un dernier mercredi de chronique cinématographique. Et oui, tout comme l'oreille curieuse telle que nous la connaissons qui tire sa référence demain, moi-même je ne ferai plus partie de l'émission la saison prochaine. Alors je vous entends déjà vous lamenter derrière vos postes radio car j'ai une ouïe très très fine. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez déjà plein de podcasts à écouter et réécouter sur plein de sujets différents. Et d'ailleurs cette chronique ne fera pas exception puisque je compte bien vous abreuver à nouveau d'informations et de connaissances. Afin que vous n'en sortiez pas triste mais comblé. Et c'est toujours compliqué de bien terminer quelque chose, que ce soit une histoire, une chronique, ou en l'occurrence dans cette chronique, des films. Car c'est bien ce qui va nous intéresser aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien installés, car la fin risque de vous surprendre. Cette séance du guichet choral concoctée par moi, Céleste, va conclure cette saga de chroniques. C'est la fin, de quoi donner le ton. Je vous assure, la chronique sera un peu plus joyeuse que la chanson. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte qu'elle le soit. Je vais donc aujourd'hui vous parler de différentes sortes de fins. Déjà, sachez qu'aux États-Unis, les réalisateurs n'ont pas le droit au final cut, à pouvoir finir eux-mêmes leur film. En France et dans certains autres pays européens, les droits d'auteur sont partagés entre le réalisateur, le ou les producteurs, et les auteurs, qui sont reconnus comme apports créatifs, par exemple le compositeur de la musique, etc. Mais aux USA, les droits d'auteur appartiennent aux producteurs qui ont le dernier regard sur le film, ou final cut, littéralement montage final. Ce qui veut dire que si la fin ou tout autre élément ne leur plaît pas, il sera coupé du montage final du film et sera remplacé par autre chose. C'est pour ça que certains réalisateurs deviennent directement producteurs pour avoir la main mise sur leur film. Le premier cas célèbre de final cut volé par les producteurs date de 1924, donc déjà à l'aube du cinéma, pour le film muet Les Rapaces d'Erich von Stroheim. Son film a été mutilé pour qu'il ne dure qu'un peu plus de 2 heures, contrairement aux 8 voulus par le réalisateur.
8 heures pour un film muet, ça fait un peu beaucoup.
Mais il faut croire que ça retranscrivait bien la vision du réalisateur. Une version de 4 heures a d'ailleurs pu être remontée en 1999 grâce à des images d'archives, ce qui est tout de même incroyable et admirable.
Les ambitions du réalisateur étaient trop grandes pour l'époque.
Oui, et encore aujourd'hui, un film de plus de 3 heures, ça ne passe pas au cinéma, c'est beaucoup trop long pour les distributeurs, et c'est difficilement vendable. Comme la Snyder Cut, qui retranscrivait la vision du réalisateur Zack Snyder sur son film Justice League, qui a une durée de 4 heures, contrairement aux 2 heures du film cinéma qui a été, lui, coupé de tous les côtés par les studios. Les films qui correspondent bien plus à ce que le réalisateur, ou à la réalisatrice bien sûr, avait en tête, a un nom, la Director's Cut. Maintenant, vous saurez ce que ça veut dire sur votre DVD d'Alien 3 ou de Blade Runner. Cela témoigne très souvent d'une production assez chaotique, dans laquelle les producteurs n'ont pas réussi à être d'accord avec le réalisateur. Généralement parce que la production a voulu tout contrôler et ne pas laisser une once de liberté à la réalisation. Ça a d'ailleurs été le cas pour Alien 3, pour lequel David Fincher a eu beaucoup de problèmes durant la production de son film. Et parfois, ce forçage à la final cut par la production est là juste pour changer la fin. Notamment quand celle-ci est une mauvaise fin, une fin déprimante. Elle est donc remplacée par une fin un peu plus joyeuse, une happy end, où tout le monde est content. C'est aujourd'hui considéré comme mauvais ou assez grossier, dans les films d'horreur par exemple, ou les films catastrophes car elles sonnent un peu fausses et discordantes, comme posées là, comme un cheveu au milieu de la soupe.
Et qu'est-ce qui donne cette impression?
Dans les films d'horreur ou catastrophes, beaucoup de personnes perdent la vie. Et donner une fin heureuse, et par fin heureuse j'entends vraiment fin heureuse à la limite du mielleux, juste parce que la menace principale a été écartée et le personnage qu'on suivait depuis le début sont tous ou presque vivants, ça semble un peu discordant. Et parfois, la pienne peut être contrariée par un retournement de situation, un twist. Le twist, à ne pas confondre avec twist à Saint-Tropez, est un retournement de situation qui arrive le plus souvent à la fin de l'histoire, surprenant le lecteur, la lectrice ou le spectateur slash la spectatrice, permettant un tout autre regard sur l'œuvre. Le secret d'un bon twist est qu'il soit logique, que quand on regarde à nouveau l'œuvre, on remarque les petits détails menant à cette conclusion. Un exemple très marquant sont les romans d'Agatha Christie, par exemple, n'importe quel Hercule Poirot ou même Ils étaient 10. L'un des twists les plus connus du cinéma, et je suis désolé d'avoir vous spoilé ça si vous ne connaissez pas, bouchez-vous les oreilles quelques instants si vous n'avez pas vu Star Wars 5, l'Empire contre-attaque, et que vous ne connaissez pas le retournement final. C'est bon ? Donc, dans ce film, on se rend compte que le père de Luke Skywalker n'est autre que le grand méchant Dark Vador, celui qui terrorisait tout le monde depuis le début du film précédent. Cette nouvelle est un choc pour le spectateur, mais aussi pour l'acteur principal Mark Hamill, qui joue Luke, car le secret a été gardé vraiment jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est presque de notoriété publique que ce twist existe, mais à l'époque, ça a été assez incroyable.
Quels sont les ingrédients pour réussir un bon twist ?
Alors déjà que, évidemment, le spectateur ou la spectatrice ne s'en doute pas, pour commencer, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi qu'il soit logique, comme j'ai dit précédemment, et pas qu'il ne sorte de nulle part comme un Deus ex machina.
Un Deus ex machina quoi ?
Deus ex machina, littéralement « Dieu sorti de la machine », vient du théâtre antique grec dans lequel un dieu mythologique venait en aide au personnage. Il était souvent tiré par des fils au-dessus de la scène, donnant l'impression qu'il surplombait l'action comme observant directement depuis l'Olympe. Deus ex machina, donc il sortait véritablement des machineries. Les exemples dans le cinéma sont assez nombreux. Parmi eux, on peut citer l'arrivée de Richard Cœur de Lion au moment opportun dans le Robin des Bois de Disney, les nazis qui se font miraculeusement tous consommer par l'Arche d'Alliance dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Parfois, c'est utilisé à but humoristique et ou totalement voulu par le scénario. Par exemple, les aliens qui viennent secourir Brian alors qu'il tente de mettre fin à ses jours en se jetant dans le vide, dans la vie de Brian, dans le Jérusalem de Jésus-Christ, donc c'est un peu anachronique, ou même un très très grand nombre d'éléments du film Cusco l'Empereur Mégalo, par exemple les trampolines qui empêchent la méchante de s'écraser, la trappe qui ensuite empêche la méchante d'arriver, de parvenir à ses fins. Ce qui est marrant, c'est que dans le script, ils arrivent à justifier ces choix Deus ex machina, alors que c'est...
Sorti de nulle part.
C'est sorti de nulle part. Les Deus ex machina sont cependant très mal vus, en général, car le procédé est souvent utilisé pour régler une situation qui était insolvable. Cela témoigne d'une paresse scénaristique et d'une non-créativité abyssale.
Céleste,
oui,
vous avez une rage incroyable.
Merci. Il s'agirait surtout de ne pas prendre les spectateurs pour des imbéciles. Fort heureusement, il y a des fins qui nous permettent de réfléchir une fois le film terminé, les fins ouvertes. Une fin ouverte est une fin qui laisse des questions en suspens, qui ne seront pas forcément résolues par le film. Il arrive parfois, cependant, que cette question trouve une réponse dans le long métrage même. Si on est très attentif, c'est le cas d'Inception.
Et il s'y passe quoi dans Inception ?
Alors, pour faire simple, ce qui risque d'être compliqué, dans Inception, les protagonistes explorent les rêves de quelqu'un pour y insérer une idée, d'où le nom, Inception, Inception. Il leur faut parfois aller très profondément dans le rêve pour y insérer cette idée, voire même aller dans les rêves situés dans les rêves. C'est là que ça devient compliqué. Et plus les protagonistes s'enfoncent dans les strates de rêve, plus ils perdent pied avec le vrai monde de la réalité véritable. Pour savoir s'ils sont toujours dans le rêve ou non, ils possèdent un objet quelconque, appelé totem, dont les propriétés physiques sont modifiées. Par exemple, le personnage principal possède une toupie qui est censée tourner à l'infini dans le rêve et s'arrêter au bout d'un moment dans le vrai monde de la réalité véritable. C'est d'ailleurs cette toupie qui est au centre du dernier plan du film. Film qui s'arrête avant que la toupie s'arrête de tourner, laissant planer le doute sur s'il est toujours dans le rêve ou s'il a réussi à revenir dans le vrai monde de la réalité véritable. Il y a également un autre type de fin ouverte, appelé cliffhanger. Le terme vient d'un roman de la fin du 19e, qui avait d'abord été publié en feuilleton, dans lequel l'auteur laissait son héros accroché à une falaise, donc littéralement cliffhanger. Cette formule est utilisée lorsque la fin du film, ou de l'épisode en série télé, est laissée en suspense. Cela sert à préparer très souvent une suite. C'est ce qui est utilisé dans les sagas dont les films ne sont pas indépendants, comme par exemple la trilogie Retour vers le futur. Le but de ces cliffhangers est de donner envie aux spectateurs de venir voir la suite de la saga et de faire grandir l'attente pour ce qui arrivera après. Bien amené, cela peut amener à des scènes mémorables. Je reprends l'exemple de Retour vers le futur avec son deuxième volet, qui se termine par la disparition de Doc Brown et de Marty qui se retrouvent coincés en 1955 sans la DeLorean qui lui permet de voyager dans le temps. Pour bien réussir ce cliffhanger, il faut bien évidemment donner une suite à la hauteur des attentes, ce qui n'est pas toujours de mince affaire. Et de toute façon, à un moment, dans toutes les sagas, il faut bien conclure. Une suite de livres, de films ou une série qui ne se finit jamais n'a pas grand intérêt. La fin, bien qu'elle ne soit pas forcément facile à amener, doit arriver. C'est ce qui donne à cette suite, de livres ou de films, tout son intérêt. Une fin nous permet de nous replonger à nouveau dans l'œuvre avec une certaine nostalgie, en sachant pertinemment que nous allons ressentir une pointe de mélancolie lorsque nous arriverons à nouveau à la fin.
C'est donc ça ta conclusion, Céleste ? Les fins sont utiles ?
Eh bien oui, la fin, au-delà d'être utile, est surtout nécessaire. Elle rend une appréciation plus grande de ce qu'on vit.
C'est une ouverture philosophique que tu nous offres.
Et pourtant, j'ai eu 8 au bac de philo. Enfin bref, c'est ainsi que s'achève cette longue saison de chronique. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté pendant cette année assez particulière pour le monde du cinéma. Merci évidemment à Alny d'avoir supervisé ces chroniques et d'avoir, et ça c'est très important, passé tous mes extraits audio et morceaux musicaux, rendant ces chroniques toujours plus vivantes. Évidemment, on se quitte en musique, comme d'habitude, et quoi de mieux pour clôturer cette dernière séance du guichet choral que le titre d'Eddie Mitchell, La dernière séance. Merci à tous, voyez des films, ce que vous voulez. Gardez l'esprit curieux autour du cinéma, c'est important. Prenez soin de vous, c'était Céleste, la séance est levée.
La lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés. J'allais rue des solitaires, à l'école de mon quartier. À 5h j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait l'opprimé. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les filles qui tremblaient pour les jeunes premiers. La lumière s'éteint déjà.
cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé.
C'était la dernière séance, une programmation choisie par Céleste pour nous changer un peu d'époque musicale.
Oui.
Mais toujours pour parler de cinéma. Merci Céleste pour toutes tes chroniques dans l'oreille curieuse.
Mais de rien, ça m'a fait plaisir d'être là durant toute cette année.
J'espère que nos auditeurs et nos auditrices ont éprouvé ce même plaisir. On peut te retrouver en podcast sur le site de Radio G à l'onglet Podcast Plus, oui. Guichet Choral.
Et sur Spotify aussi, pour le Guichet Choral.
Quelle promo. J'ai oublié de vous en parler, mais il y a aussi dans cette émission ce soir un reportage sur le dispositif du service civique. Comme on le retrouve ce soir, on ne le retrouvera pas demain. Et on le découvre maintenant.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Notre enquête se termine. Nous avions évoqué l'envie de revenir sur le lieu de notre premier reportage. Retour donc à l'école primaire d'Enondal, au Clion-sur-Mer. Nous sommes début avril, juste avant les vacances de Pâques, au début du troisième confinement. Monsieur Fouillet, Alexia et une autre jeune fille nous attendent.
Monsieur Fouillet, aujourd'hui nous sommes trois. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ?
Il s'est passé qu'à l'école d'Enondal, nous avions la possibilité de recruter jusqu'à 2 jeunes en mission service civique. Une première, Alexia, qui s'est présentée dès le début du mois de novembre, et une seconde, Maïwenn, le 1er décembre.
Alexia et Maïwenn n'ont pas terminé leur mission, mais on peut déjà connaître leurs impressions après 6 mois d'immersion auprès des enfants et de leurs enseignants.
L'inspectrice a insisté sur le fait que l'école était ouverte, notamment aux élèves éligibles, les enfants des parents qui sont mobilisés sur la crise. C'est pour ça qu'il y a toujours sur le temps scolaire la présence d'au moins un enseignant. L'agence du service civique nous a demandé à ce que les jeunes soient mobilisés. On a un petit peu adapté l'emploi du temps et puis un petit peu adapté les missions également dans la mesure où elles devaient être au contact des élèves. On avait soit 1, soit 5, soit 6 élèves. Et donc, elles ont plutôt fait des tâches administratives et de rangement.
En l'ensemble, ça se passe très bien.
T'as trouvé ton public, en fait ?
Voilà, c'est plutôt les petits.
Quand on s'est rencontrés, Alexia, tu venais de quitter un EHPAD parce que le public ne te correspondait pas. Et tu t'intéressais aux animaux. Où tu en es par rapport à tes projets professionnels ?
Le projet pour les animaux, j'ai un peu laissé de côté. Maintenant, je vais me consacrer au CAP Petite Enfance, que j'aimerais bien commencer au mois de septembre. J'ai déjà trouvé le centre de formation et maintenant, il faut que je trouve l'école maternelle.
Un changement total d'orientation pour Alexia. Le service civique permet une approche concrète de métiers parfois insoupçonnés par les jeunes.
Il faut énormément de patience, être autonome, tout ça. Que je n'étais pas avant. Donc, ça m'a permis de découvrir d'autres qualités sur moi que j'avais pas auparavant. Puis avoir une expérience professionnelle.
Maïwenn est arrivée un mois plus tard.
Et je cherchais du travail et j'ai vu une offre ici, du coup, j'ai postulé.
Et tu souhaitais, toi, travailler avec les enfants ou c'était...
Oui. Mais oui, justement, j'ai fait un bac pro service aux personnes et au territoire et c'était un truc que j'aimais bien, donc j'ai voulu continuer dedans. Déjà, ça m'a apporté quelque chose, une expérience professionnelle, pas en tant que stage, mais en tant que travail. Et après, ça m'a permis De voir que j'aimais vraiment bien travailler avec les enfants.
En tuteur très investi, Baptiste Fouillet rencontre régulièrement Madame Finbault, la conseillère mission locale que connaissent les deux jeunes filles. Il est évident que le contexte de ville moyenne comme Pornic facilite ce suivi individuel.
C'est vraiment assez précieux, hein. Cette semaine, c'était un peu particulier. On s'en est servi pour des tâches un peu administratives. Mais dans la mesure où leur contrat fait un peu plus que 24 heures, c'est-à-dire le temps scolaire, on aurait du mal à s'en passer. Ce qui est compliqué d'une année sur l'autre, c'est qu'on peut avoir des profils assez différents, des personnes qu'on peut former, d'autres qui ont un bon sens naturel. Enfin, voilà, c'est aussi le rôle du tuteur et des enseignants d'être capable de les accompagner. Mais j'aime bien l'esprit du tremplin dont on parlait. C'est-à-dire d'être capable de rendre service et de presque faire émerger des vocations, si c'est le cas. Oui, c'est positif. Hein.
Oui, c'est positif. Oui, pour moi aussi.
C'est intéressant en tant que tuteur de s'apercevoir qu'elles veulent garder cette dynamique.
En fait.
C'est satisfaisant.
Merci à Maïwenn et Alexia, à Monsieur Fouillet, directeur de l'école des Nondales au Clion-sur-Mer, pour leur accueil et leur témoignage. C'était Valérie pour Jade FM.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités. Une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Et c'est bientôt la fin de cette émission, alors je profite du peu de temps qu'il me reste pour partager avec vous une campagne de financement portée par l'association Macao. Alors Macao, ça veut dire médiation par l'animal au cœur de l'accompagnement et de l'ouverture. Leur but, c'est de valoriser le vivant, les humains, les animaux, les végétaux, et ils proposent des actions qui s'adressent à tous les publics. Que ce soit des enfants, des ados, des adultes, des personnes âgées, bon, tous les âges, quelle que soit votre situation aussi. On peut être des fois dans des situations de précarité, de fragilité. Et l'idée, c'est de mettre en relation un animal, un être humain. Et c'est chouette. Oui. Le mieux est de découvrir un petit peu leur travail. Vous tapez Macao, association, médiation animale. L'idée, c'est vraiment de renouer, de créer du lien pour porter toutes leurs actions. Alors, si vous vous demandez avec quels animaux ça se passe, il y a des chats, des chiens, des moutons. J'ai vu leurs photos, ces animaux ont l'air adorables. J'ai envie de faire de la médiation animale. Oui, Céleste.
Est-ce qu'il y a des reptiles?
Je ne crois pas, mais peut-être.
Les enfants, ils aiment bien les dinosaures. Il n'y a pas de dinosaures?
Il n'y a pas de dinosaures, car les dinosaures ne sont plus sur cette planète. En tout cas, voilà, pour relayer rapidement l'appel à financement de l'association Macao, qui fait des choses tout à fait sensées et utiles. Vous allez sur Hello Asso. Il vous reste 3 semaines pour financer leurs nouveaux projets, participer, les soutenir. Vous verrez aussi tout ce qui concerne les contreparties. Voilà un petit peu pour les dernières nouvelles. Je vous signale aussi un événement qui aura lieu bientôt, qui s'appelle Spectacle au Jardin sur juillet, août et septembre. C'est aux alentours de Bouchemaine, Savenières, vers ce pays de la Loire. Tapez Spectacle au Jardin, il y a plein de choses très chouettes. Je n'ai malheureusement, oulala, plus le temps. J'ai 12 secondes pour vous souhaiter une très bonne soirée.
Bonne soirée à vous.
Je nous ai mis en retard. À demain, 18h10, pour la dernière Oreille Curieuse. Merci pour votre écoute.
À demain. Everything you never even wanted.
bad. He never wanted it so bad. Oh, tell me, where can I go?
snow is burning my hands. I'm frozen to the